Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est le dernier épisode en date des chamboulements qui touchent la politique française depuis 2 ans maintenant. La démission de Laurent Wauquiez de la présidence du parti de droite Les Républicains après un score catastrophique aux élections européennes il y a 8 jours. Face au duel Macron-Le Pen qui semble s'installer dans le paysage, la droite est donc réduite à la portion congrue et s'interroge sur son avenir. Mais la gauche est aussi profondément affaiblie car profondément divisée. Les écologistes semblent en profiter et ils espèrent que c'est le début d'un mouvement plus durable en leur faveur. La recomposition politique française est-elle complète, définitive, achevée? C'est la question du jour. Et pour en parler, 2 invités sont avec nous en studio. Fabien Escalona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur associé au laboratoire Pacte à Sciences Po Grenoble et journaliste aux médias en ligne Mediapart. Et Nicolas Saugé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à Sciences Po, co-auteur avec Emiliano Grossman de Pourquoi détestons-nous autant les politiques? C'est aux éditions des presses de Sciences Po. On va commencer par le plus récent et cette démission de Laurent Wauquiez après le pire score de la droite aux élections européennes depuis qu'elles sont organisées. La droite est-elle vraiment définitivement marginalisée? Nicolas Saugé.
Alors, il y a évidemment, comme toujours, plusieurs réponses possibles à ce type de questions. Il y a une réponse qui serait simplement de dire oui, la droite, là, on voit, elle est définitivement, d'un point de vue national, en train de se disloquer, elle est en train de former plusieurs groupes, plusieurs scissions, comme elle l'avait fait depuis 2 ans, et c'est le début de la fin. En même temps, cette réponse-là, je pense qu'elle est, elle serait tout simplement fausse, ou en tout cas beaucoup trop courte pour être crédible. Il y a au moins deux réponses qu'on peut essayer d'apporter de manière un petit peu plus constructive. Une qui serait peut-être sous forme d'interrogation encore, c'est de dire finalement la droite, on en a encore une, et on en a encore une qui est forte, c'est La République En Marche. Finalement, La République En Marche, c'est le grand parti de droite, centriste hein, aujourd'hui, mais ça reste le grand parti de droite équivalent à ce que c'était l'UDF. On pourrait dire, c'est quand même le plus proche par rapport au RPR historique, mais c'est l'UDF moderne, libérale, sociale, européenne, c'est quelque chose qui caractérisait l'UDF en 78, c'est quelque chose qui caractérise bien la Macronie aujourd'hui, donc quelque part, on a notre parti de droite, hein, c'est juste peut-être la gauche qui manque, mais le parti de droite existe bien. Puis la deuxième leçon qu'on peut avoir par rapport à votre question initiale et par rapport à la situation de la droite aujourd'hui, c'est que on peut penser qu'on a quelque chose qui est en train de se passer, ça c'est certain, mais la grande leçon, c'est que plus rien n'est stable. C'est que la République En Marche peut faire 20%, 25% aujourd'hui ou demain, mais ça ne veut pas dire que dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura pas un nouveau parti, alors on ne sait pas exactement lequel il sera, qui viendra là aussi le remplacer très rapidement. On voit que tout ça se prend quelques mois au plus.
Fabien Escalona, vous partagez cette analyse?
Oui, en partie, c'est-à-dire que je crois que votre question elle portait sur la marginalisation d'un appareil qui visiblement ne trouve plus son espace. Ça c'est l'appareil des Républicains, mais ça ne recoupe pas forcément un espace politique et un corpus d'idées et un socle sociologique. Mais je crois qu'on est en train d'observer des redéfinitions des camps. Et effectivement, ce qui se passe c'est que l'appareil LR est un peu coincé entre un pôle conservateur identitaire qui est aujourd'hui totalement hégémonisé par le Rassemblement National. Il a essayé d'ailleurs de se rapprocher de ce pôle. Visiblement, ça, c'est un échec électoral. Et puis un autre pôle plus libéral. Encore faudrait-il s'entendre sur le sens du terme du côté de la République En Marche.
Pendant très longtemps, Nicolas Saugé, le postulat c'était que la France était un pays plutôt conservateur, que la gauche au pouvoir était l'exception. Certains hommes politiques même employaient le terme d'effraction il n'y a pas si longtemps. Est-ce que cette droite qui se divisait en 3 courants de pensée, c'est la grande théorie de René Raymond, hein, légitimiste, orléaniste et bonapartiste, est-ce que ça existe toujours? Est-ce que c'est en train de se redéfinir ou est-ce que c'est vraiment fini tout ça en 2 ans? Ces choses-là ne disparaissent pas comme ça.
Ces choses-là n'ont jamais complètement existé, donc ne disparaissent pas aussi
absolument
facilement que ça. Hein. C'est un petit peu la réponse qu'on peut faire, parce qu'évidemment, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup plus compliqué. Hein. Et là, je rejoindrai ce que disait Fabien Escalona, c'est qu'il y a des questions d'appareil, des questions d'idéologie qui sont assez différentes, des questions d'hommes aussi et de femmes, évidemment, qui sont en train de pouvoir bouger d'un camp à l'autre. Et donc, on voit surtout de la fluidité pour l'instant dans le paysage politique contemporain qui ne correspond pas véritablement à des courants idéologiques aussi structurés. Hein, parce que finalement, si qu'on observe aujourd'hui, il y a une caractéristique et une constante claire, c'est que l'idéologie a pratiquement disparu. Et on le voit ça par les revirements des uns et des autres qui sont évidemment permis par le fait que in fine, il y a un consensus ou en tout cas des accords possibles sur beaucoup de positions.
Fabien Escalona voulait réagir là-dessus.
Oui, ce qu'on voyait sur les grandes évolutions de l'UMP une fois qu'elle s'était constituée plutôt au début des années 2000 et telle qu'elle avait évolué, notamment dans les différentes primaires qui se sont succédées avec François Fillon, c'était la liquidation de ce qui pouvait rester de démocratie chrétienne qui en France s'est jamais trop implantée. C'est aussi la liquidation de l'héritage gaulliste, hein, dont il ne reste plus que des traces. Et donc, il y avait cette droite qui était parcourue de tensions, notamment sur les questions d'immigration, d'identité nationale, avec une base radicalisée. Ça a donné Fillon d'une certaine manière, ça a donné Wauquiez, et aujourd'hui cette ligne s'est crachée, quoi. Et donc la question, c'est pour eux, c'est comment se réinventer.
Et que vont devenir les Républicains? Une espèce de parti croupion, un supplétif de majorité au mieux, là, Nicolas Songer? On n'en est pas encore là, peut-être.
Alors ça, c'est évidemment toujours difficile pour un scientifique de dire ce qui va se passer. C'est beaucoup plus facile de se tourner vers le passé pour comprendre ce qui s'est passé. Déjà, c'est assez compliqué comme ça. Non, il me semble qu'il y aura toujours un appareil de droite qui va exister au moins dans les prochains mois. Dans la mesure où on le sait, pour les scrutins locaux, sauf Révolution, là, qui est quand même difficilement prédictible, qu'il y a un appareil partisan, militant extrêmement fort, en tout cas qui reste extrêmement structurant en termes de réseau d'élus pour les élections municipales, départementale, éventuellement même régionale. Les régionales, ça va être le cas le plus intermédiaire probablement entre tous ces scrutins, qui va permettre aux Républicains de pouvoir conserver en tout cas un certain nombre de bastions. Hein. Et on voit bien qu'il y aura dans les grandes villes des combats ou des affrontements entre les Républicains en marche, un certain nombre de partis de gauche dont il faudra voir ce qu'ils deviennent, et les Républicains, que les Républicains vont pas forcément les emporter, mais par contre dans les villes moyennes, les Républicains sont encore en position forte, puisque les Républicains en marche un réseau d'élus relativement faible.
Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant. On sent clairement la volonté du Premier ministre Édouard Philippe, notamment de prendre dans son ancien camp ce qu'il veut. Hein. Il a l'air de vouloir rapatrier, amener avec lui un certain nombre de maires de villes moyennes. Ça a l'air d'être une OPA quand même, enfin, ou une vente par appartement, là, ce qu'il est en train de faire Édouard Philippe, Fabien Escalona.
Oui, bah c'est le jeu, c'est-à-dire qu'ils profitent d'un adversaire qui est affaibli, ils ont déjà dépecé son électorat, donc ils essayent de dépecer l'appareil, le réseau d'élus qui va avec. Mais bon, effectivement, je pense qu'il y a des endroits où ça va tenir, et puis mais quand même, c'est-à-dire que là, si on se refait le film, et bon, les gens de La République En Marche le mettent en avant parce que ça les arrange, mais c'est vrai, c'est-à-dire que des deux anciens piliers de l'ordre électoral qui avaient depuis les années 80 jusqu'aux années 2000, on avait les héritiers du gaullisme, on avait les socialistes du PS. Bon, bah, le PS s'est effondré déjà en 2017. Maintenant, c'est le cas des Républicains. Donc, si vous voulez, les deux, c'est pas seulement deux piliers d'un ordre ancien, c'est aussi deux facteurs d'ordre qui nouaient, qui contrôlaient des alliances, qui étaient des facteurs de discipline aussi dans l'ensemble du champ partisan. Et donc, je pense que même au niveau local, on va voir se déployer des configurations un peu plus bizarres par rapport à ce qu'on observe avant, quoi.
La gauche, on va en parler.
Mais je crois que par rapport à ça, il y a quand même il y aura des dilemmes, hein, par rapport à La République En Marche, hein, de deux ordres. Hein. D'une part, c'est que La République En Marche, aujourd'hui, elle est dans une position stratégique très avantageuse, mais c'est pas vu comme un parti de gagnant à ce stade encore. C'est plutôt vu quand même un parti à 20%, ce qui est pas mal dans le paysage actuel, mais ce qui est quand même pas énorme. Mais
ce fameux socle de 20%, il a changé de la présidentielle aux européennes. C'est pas tout à fait les mêmes électeurs.
Il n'y a pas de socle de 20%.
C'est ce qu'il revendique, en tout cas.
Oui, bah, il y a un socle de 20% deux élections, ce qui fait un socle quand même qui n'existe pas véritablement et qui sociologiquement est quand même clairement identifié. Hein. On sait que c'est des électeurs qui sont plutôt diplômés, plutôt aisés, plutôt urbains. Ça, c'est une sociologie relativement classique et à l'opposé, justement, celle du Rassemblement National, mais qui est concurrencée à la fois sur sa gauche et sur sa droite. Hein. C'est les Verts, on voit bien, ont récupéré une partie de cet électorat de La République En Marche de 2017. Et un jour, si La République En Marche dirige plus à droite, il y a fort à parier qu'il y aura un espace électoral élargi à sa gauche. Et de la même façon, s'il va un peu plus à gauche, il y aura un espace électoral à droite. Là, c'est le mouvement de La République En Marche sur ces dernières années est clairement vers la droite, et donc c'est le camp de la droite qui est affaibli, mais elle ouvre clairement des possibilités à gauche.
Alors la gauche, justement, on va en parler, la France Insoumise, le Parti Socialiste sont tout juste au-dessus des 5%. Hein. La gauche, est-ce qu'elle est totalement balkanisée, Fabien Escalona?
Bah, on peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que c'est un espace qui clairement est fragmenté. Et bon, certains
n'ai cité que ceux qui étaient au-dessus de 5%.
Bien sûr, oui. Après, on peut continuer la liste. Mais c'est tout le paradoxe. C'est un camp qui malgré tout existe. En fait, voilà, il pèse quand même plus de 30% dans l'électorat, donc on n'est pas, c'est pas une marge, c'est pas une niche, voilà, c'est un espace qui existe.
Il y a une demande, un besoin, mais qui n'est pas organisé, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, si j'en crois certains collègues, c'est-à-dire que, moi je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais si on regarde les attitudes des électeurs qui votent, que ce soit du PS jusqu'à la France Insoumise, évidemment qu'il y a des différences si on regarde électorat par électorat, mais globalement, il y a quand même un socle, pour le coup, de convictions à la fois écologistes, démocrates évidemment, sociales voire socialistes, oui, qui les réunit plutôt bien. Et donc, je pense qu'il y a un espace qui où l'électorat est pour l'instant assez fluide, avec effectivement une grande fragmentation organisationnelle pour le coup là des responsables et des appareils. Et donc tout l'enjeu pour eux, ça va être de se dire, bah surtout avec les modes de scrutin qu'on a pour les élections décisives, bah il va peut-être falloir trouver une autre façon d'aller dans la compétition politique si on veut survivre.
Oui, tout à fait. Ça va se faire par une élimination progressive d'un certain nombre de concurrents. On voit bien que, par exemple, Génération aujourd'hui est en train de disparaître et va probablement disparaître. Après, il y a toujours des surprises possibles, hein, et des renaissances. Et donc, ça va se focaliser sur deux ou trois parties. La question, on ne sait pas à ce stade lesquels ça va être. Est-ce que c'est la France Insoumise, les Verts, et que finalement cette gauche modérée, elle va être complètement absorbée par les écologistes? Est-ce que c'est une autre configuration autour d'un renouveau du Parti Socialiste, d'un successeur? On voit pas trop exactement le scénario aujourd'hui, mais là aussi, les élections locales vont permettre, hein, de réinventer et des coalitions, c'est-à-dire des alliances entre partis qui vont aller au-delà de ces questions de la fragmentation des organisations, puisque d'un point de vue local, c'est très simple, il vous faut suffisamment de candidats pour faire une liste. Il y a pas beaucoup de partis aujourd'hui qui sont capables à eux seuls de faire une liste comme ça dans les villes significatives. Donc il y aura des coalitions obligatoires. Et la question, ça va être du format de ces coalitions et de leur capacité à rassembler effectivement l'ensemble de la gauche.
Les élections locales, c'est vraiment la clé. C'est ça qui va figer un peu les positions. Fabien Escalona?
Non, il faudra voir. Vous savez, si on se replace à la précédente élection, est-ce qu'on pouvait dire que au municipal de 2014 ou au régional de 2015, est-ce que ça a annoncé le paysage de 2017? Pas forcément. Donc voilà, il faut rester modeste par rapport à ça. En revanche, ça va évidemment être un test supplémentaire pour les forces pour se compter. Et puis, ça va être aussi l'occasion peut-être de voir émerger ou réémerger des figures aussi. Parce que pour les élections décisives très personnalisées comme la présidentielle, ce qui va compter, c'est pas seulement les appareils dont on parle ici, mais ça va être des candidats potentiels pour incarner cet espace de gauche.
Et puis dans la même logique, il y a quand même les élections, notamment municipales, vont être déterminantes par la configuration des coalitions. Est-ce que, et notamment du côté de la République En Marche, mais aussi du côté de la France Insoumise, on accepte de faire des coalitions à gauche et à droite? Est-ce qu'il y a un type de coalition privilégiée ou une absence de coalition? Il y a eu ces trois discours qui ont été portés à la République En Marche. Et de la même façon, est-ce que entre la France Insoumise et le Parti Communiste d'un côté, le Parti Socialiste, les écologistes de l'autre, éventuellement, on a une tentative de rapprochement pour faire des listes communes, éventuellement dès le premier tour, ou est-ce que cette stratégie-là échoue, on ne parvient pas, et on a deux camps de gauche qui sont en train de se former progressivement, un petit peu dans la suite de ce qui s'est fait en 2017, d'une certaine mesure, et qui là vont, si ça continue dans cette direction-là, et qu'on voit que ces deux camps sont viables, pénaliser durablement la gauche dans sa capacité à conquérir des postes et des positions.
Est-ce que vous diriez, Fabien Escalona, qu'il est en train d'arriver à la gauche ce qui est arrivé aux radicaux? Je sais que comparaison n'est pas raison, mais devenir un parti, ou Parti Socialiste par exemple, de devenir un parti qui ne pèse plus vraiment, qui n'a plus ce rôle caporalisant, si je peux dire, comme vous l'expliquiez.
Bah, à la limite, on peut le dire peut-être du Parti Socialiste, ou faire l'hypothèse que c'est le destin vers lequel il va.
Les partis sont mortels.
Oui, encore qui meurent parfois doucement, à petit feu et rarement finalement.
Comme les radicaux.
Exactement. Mais par contre, je pense que le diagnostic vaut pas pour la gauche entière. C'est-à-dire que les radicaux, ce qui les a fait mourir, c'est que les grandes questions qui avaient donné naissance à ce grand parti, c'était avec quelque peu perdu quand même de leur importance. Ils n'avaient pas su reproduire, on va dire, leur électorat, la sociologie de leur électorat, celle qui leur permettait de compter au niveau des voix. Or, je pense que là, l'espace à gauche, encore une fois, il existe sur des questions, j'ai cité l'écologie, la question de la répartition des pouvoirs, ça c'est des grandes questions structurantes qui vont définir, qui vont continuer de définir les années à venir. Donc je pense pas que ce camp-là, en tout cas, soit menacé d'obsolescence.
Est-ce qu'aujourd'hui, Nicolas Sauger, il vaut mieux avoir un mouvement à sa botte, avec des amis, avec de la fluidité, comme vous le disiez tout à l'heure, plutôt qu'un parti structuré et caporalisé? On voit bien que, en fait, c'était quand même l'idée de Laurent Wauquiez, c'était d'avoir le parti derrière lui, et ça ne lui a pas servi à grand-chose jusque-là.
Bah, disons que un parti caporalisé, c'est très difficile à avoir et à construire aujourd'hui, parce que la caporalisation, ça marche si vous avez une autorité, si vous avez des succès qui vont avec. C'est un peu ce que La République En Marche a, dans une certaine mesure, réussi à faire, mais avec une réussite, on va dire, partielle, et partielle seulement, et on voit que les autres partis ne sont pas en mesure de le faire. Quand vous faites 10% des voix, vous ne pouvez pas caporaliser. Mmh. C'est tout simplement ça. Personne ne va vous obéir parce qu'il y a des intérêts électoraux, il y a une capacité d'attraction d'alternatives possibles qui font que c'est strictement impossible. Et donc, là-dessus, hein, je crois qu'il faut reconstruire des partis. Qu'il faille reconstruire des partis, ça va être important pour la démocratie, ça va être important pour les électeurs, parce qu'on voit très clairement aussi à l'issue de ces élections européennes que quand il y a une offre éclatée, pas véritablement de lisibilité de ce paysage politique, c'est extrêmement difficile de voir et de faire sens de tout ça. Et si on ne fait pas sens, ça alimente cette question. Pourquoi est-ce que vous mettez des panneaux électoraux qui nous coûtent cher sur notre budget alors qu'il n'y a même pas d'affiche dessus, ce qui est évidemment pas forcément le bon point à faire, mais qui donne ce sentiment d'une crise de la représentation, d'une impossibilité des élites politiques à embrayer, alors même que ce n'est pas les élites politiques qui créent ces nouveaux partis.
Il y a un parti qui n'est pas connu pour être caporalisé, bien au contraire, dans son histoire, c'est les Verts, les écologistes. C'est là que la gauche survit aujourd'hui, c'est de là qu'elle va repartir. 13% et des poussières. Il faut rappeler que ce n'est pas tout à fait le meilleur score aux européennes des écologistes, donc il y a un peu de prudence à avoir, Fabien Escalona.
Oui, bien sûr, c'est pas leur meilleur score, et c'est un score qui reste modeste quand même quand on est à 13%. C'est pour ça que ça rend les prétentions à vouloir réorganiser tout le camp peut-être un peu exagérées. Parce qu'il faut faire preuve de modestie. C'est vrai de ceux qui sont en dessous, évidemment, mais c'est aussi vrai de ceux qui font 13%. Dans tous les cas, je pense que eux-mêmes, enfin les Verts eux-mêmes, les responsables des Verts ont bien conscience qu'ils vont pas pouvoir englober tout le monde dans leur mouvement. Ça, c'est clair. Il y a une nouvelle forme à inventer, mais avec des institutions et des procédures. C'est important de le dire, parce qu'autant un parti caporalisé, bon, ça marche pas trop, autant quand on voit bien les problèmes à la France insoumise, où tous les débats stratégiques qui sont vitaux pour cette force qui vient de subir un échec, ils n'ont nulle part où se produire, sinon sur la place publique, ou sinon ils se passent pas, et avec impossibilité de vraiment se compter. Donc il y a clairement des nouvelles formes à inventer dans...
Est-ce que Nicolas Sauger, sur
la question précédente, c'est qu'il me semble que ce qui est vraiment frappant pour la gauche, c'est que la question stratégique initiale de la gauche depuis finalement la fin du XIXe siècle, c'est celle du rapport au pouvoir, celle de la révolution versus de la transformation, et c'est exactement ce débat-là qui est toujours en train de se nouer aujourd'hui et qui est en train de nouer les clivages ou l'absence de clivage à gauche. C'est est-ce que la gauche plus radicale va réussir à faire alliance avec une gauche plus modérée sur un programme transformiste, ou est-ce qu'on va maintenir deux pôles qui sont différents? C'est ça la question essentielle pour la gauche aujourd'hui.
Est-ce que c'est un parti de gauche, les écologistes? Yannick Jadot laisse planer l'incertitude sur de possibles alliances, y compris avec La République En Marche, au municipal notamment. Est-ce qu'il y a une ouverture qu'on voit quand même, Fabien Escalona?
Oui, on voit bien. Et puis même pendant sa campagne, il a laissé ça. Après, je veux dire, en France et même ailleurs en Europe, c'est vrai que vous avez des cas d'alliances avec la droite, mais le cas qui domine, c'est plutôt des alliances avec la gauche. Et pour ce qui est de la France, on sait quand même que la base électorale partage des opinions qui les classent plutôt à gauche, que ce soit en termes culturels, c'est évident. Je crois que même en termes de préférences socio-économiques, même si c'est une gauche modérée, on peut les classer plutôt à gauche.
La République En Marche ne dit pas non, d'ailleurs, très rapidement.
On voit bien qu'il y a des offres de toutes parts. Évidemment, pour La République En Marche, c'est une alliance qui est pratique, puisqu'elle est finalement moins marquée qu'une alliance avec la France Insoumise, qui serait complètement inenvisageable. Néanmoins, ça va être une question de capacité à pouvoir faire exister les partis, parce que si les écologistes devaient faire alliance avec La République République En Marche, ça ferait probablement des grands débats internes.
Merci Nicolas Sauger, merci Fabien Escalona d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, merci tout particulier à Déborah Lepage qui a assuré la coordination pendant plusieurs mois, merci à Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Fabrice Violet, prochain débat, demain, même heure, même endroit, bonjour chez vous.